Bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est l'émission du vendredi 1er février. Et oui, 1er février, yes, le premier du mois. Toujours aussi froid. Mais quand même, on y résiste, nous sommes des résistants. Voici Hélène Bédard qui vous parle. Je suis avec Francine Forget. Bonjour, bon matin.
Bonjour à tous, bonjour Hélène. Alors ce matin, je vais vous parler en premier lieu de... rangement avec Marie Kondo. Je sors de ma zone de confort.
Oui,
ensuite, des enfants qui encadrent leurs parents sur les médias sociaux.
Tiens donc!
Oui, ben, ça existe.
Ça existe?
Ça existe.
Eh bien oui, on inverse les rôles et c'est correct. Et de mon côté, je vais vous jaser évidemment de mon volet senior. Et je vais vous parler aussi, il y a quelque chose d'intéressant, j'ai découvert le IDGE. Enfin, je le prononce comme je peux, qui est un art de vivre. Je vous en parle tantôt. Alors voilà, Francine, vous me tentez avec votre sujet. Je vous laisse la parole.
On a beaucoup parlé de Marie Kondo récemment, dont vous et moi la semaine dernière.
Exact.
Alors, je me suis dit, bon, ben voilà. Alors, pour Hélène, pour les auditeurs, pour Mathieu à la régie, Sarah Carmouni de l'Agence France-Presse, qui a publié un article dans Le Devoir du 28 janvier 2019 sur le bonheur par le vide avec Marie Kondo. La gourou japonaise du rangement domestique, Marie Kondo, fait un tabac aux États-Unis. Propulsée par Netflix en janvier et par les 8 millions d'exemplaires de son livre écoulé dans le monde, elle multiplie les adeptes en Amérique, pays pourtant réputé pour sa surconsommation. Après s'être retrouvée temporairement sans abri en 2011, Sarah Herbie a commencé à accumuler des objets afin de ne plus jamais avoir le sentiment de ne rien posséder. Lorsque j'ai aménagé dans mon appartement, c'était tout vide et j'ai décidé que j'achetais tout ce que je pouvais pour faire en sorte de me sentir chez moi. Après plusieurs déménagements, évidemment, il arrive ce qui arrive, c'est la pagaille qui a commencé à régner. Aujourd'hui, inspirée par la gourou japonaise de l'organisation Marie Kondo, la jeune femme de 27 ans affirme avoir banni le chaos de sa vie pour de bon. C'est quoi la fameuse méthode de Madame Kondo? C'est tellement simple. Considérez chaque objet un par un. Ne gardez que ceux qui procurent de la joie et leur attribuer une place définie chez soi. Alors, vous regardez votre vase, hein, Hélène, et vous lui demandez « Est-ce que tu me rends heureuse? » À l'issue du processus, les adeptes se retrouvent avec beaucoup moins de biens en leur possession. Je pense que cela fait partie intégrante de ma relation aux choses, estime Sarah Herbie, qui a regardé le premier épisode de l'émission sur Netflix avant de se plonger dans le livre. Je n'ai jamais été bordélique, sale ou désordonnée. J'avais simplement trop de choses. Et ce que j'ai préféré, c'est me séparer des objets qui ne me procurent pas de joie, explique-t-elle. Étayant la théorie de la condomania naissante, une étude de 2016 a conclu que trop de bazar était mauvais pour le sentiment de bien-être. C'est le contraire de ce que les gens peuvent penser, explique Joseph Ferrari, professeur de psychologie à l'Université DePaul de Chicago et co-auteur de l'étude. Il pense qu'il faut avoir davantage de choses et que les personnes vivant dans l'abondance sont plus heureuses. Non, c'est pas vrai. Cela fait vraiment du bien, affirme Dan Kovacs, qui a par le passé expérimenté d'autres méthodes, mais trouve celle-ci plus efficace. J'ai désencombré mon esprit. C'est comme si j'avais moins de stress, moins de choses auxquelles faire attention. Je peux juste me concentrer sur moi-même, témoigne-t-il. Cette méthode a même stimulé la vie sociale d'Olguin Fernandez Fraga, une nutritionniste de 27 ans habitant Miami. Avant, on me demandait peux inviter un tel et un tel à la maison? » Et je répondais « Non, regarde la maison, raconte-t-elle. » Alors qu'aujourd'hui, il pourrait venir dans les 10 minutes, ajoute-t-elle. Et à l'ère numérique, la méthode KonMari peut même s'appliquer aux amis sur les réseaux sociaux. J'ai simplement passé en revue ma liste d'amis sur Facebook en me demandant « Est-ce que cette personne me procure de la joie ?» explique M. Kovacs. Selon lui, dès que vous commencez à vous poser cette question à propos de quelqu'un, vous réalisez soudainement les gens qui vous apportent quelque chose. Sarah Carmouni, dans Le Devoir, qui nous parle de la méthode Marie Kondo le 28 juillet 2019.
Fort intéressant, chère Francine. Dès aujourd'hui, je vais me mettre à regarder chacun de mes objets et je vais les interroger. C'est promis, puis je vous en parle.
La semaine prochaine, on y revient.
Absolument. Eh bien, voilà, moi, de mon côté, j'avais préparé un article et sans consulter ma collègue, je la rejoindrai avec l'article dont elle vient de nous faire mention. C'est le HIGGE, c'est H-Y-G-G-E, j'espère que je le prononce bien.
Je crois que c'est HIGG qu'ils disent. Oui, c'est ça, c'est la méthode suédoise, je pense que c'est HIGG.
Oui, méthode danoise.
Danoise,
c'est pas grave.
Ben, si on est dans le même coin.
À peu près, il fait aussi froid là-bas qu'ici. Alors voilà. Mais oui, c'est un art qui est de vivre typiquement danois, pardon, qui est, et là ça vous rejoint, profiter du maximum du moment présent tout en cultivant les petits plaisirs de la vie en compagnie des gens qu'on aime. Ça, c'est une recette de bonheur, quoi. Alors, c'est norvégien et ça signifie bien-être, évidemment, comme vous l'aurez deviné. Ces gens-là ont rapidement adopté ce mode de vie à la fin du 18e siècle. Donc là, on est quelque part dans l'ancien... dans un autre siècle. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait des hivers longs et sombres. Alors, ils ont décidé de se donner un art de vivre qui prône l'instauration d'une ambiance propice à la relaxation, au réconfort, pour mieux vivre chaque petit moment avec de bonheur avec nos êtres chers. Ils apprécient donc davantage les petites joies quotidiennes, et ils ont un sentiment de gratitude et de joie de vivre en général. Comment canaliser nos énergies sur le moment présent? Pour ce faire, d'abord et avant tout, vous l'aurez deviné, on met ses appareils intelligents de côté. Ça, c'est le premier geste à faire. Passez du temps, ça c'est agréable, passez du temps entre amis, riez, engagez-vous dans de longues conversations qui vont vous faire sentir en bonne compagnie. Ça, c'est donc agréable. Accordez moins d'importance au paraître et vivez avec moins. Et là, je vous rejoins, Francine. Conservez vos réserves pour des batailles qui pourront vous apporter du réconfort. Tentez de vivre simplement avec moins. Épurez votre décor, votre garde-robe, tous les objets qui ne vous procurent pas un sentiment de bien-être. Évidemment, on peut les espacer ou on peut s'en défaire. Les chandelles aux odeurs réconfortantes, les bas de laine, les feux de foyer, les couvertures, les boissons chaudes font partie intégrante des concepts de base de cette méthode. Ne les ménagez pas. Créez un petit espace cocooning à la maison qui vous permettra de vous reconnecter avec les petites choses qui font du bien au corps et à l'esprit. Sortez vos vêtements mous favoris. Superposez des couches pour avoir plus de confort. Ceci s'adresse à mon charmant régisseur Mathieu qui a froid en ce moment. Pyjama, legging, pull en laine, douillette, profitez-en pour vous vêtir confortablement. En été, organisez un pique-nique à l'extérieur avec vos proches. Profitez des longues soirées d'été à discuter autour d'un feu, griller des guimauves, tiens, gratter une guitare si vous en avez un peu le talent. Au printemps, faites le grand ménage, OK? Et réorganisez-vous et votre espace pour le rendre encore plus vivant en vue de la nouvelle saison. Si vous ressentez cette petite envie de critiquer la météo, comme en ce moment, allumez une petite bougie. Assoyez-vous confortablement avec un bon livre, une boisson chaude, pour vivre le HIGG à son meilleur. C'était une belle trouvaille qui vient d'un bulletin SSQ, le bulletin d'assurance SSQ, qui m'étonne à chaque fois, et c'est paru en décembre 2019. Et bon hiver à tous!
Parfait ne reviennent jamais dans les moments parfait ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laissent tomber les armes sans que ce soit voulu, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus, comme des chiens errants qui ont trouvé un toit et pour la nuit ils dorment. Ce soit voulu, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus.
Que nous chantait Jean Leloup.
Merci, merci Mathieu. Alors voilà, je suis curieuse d'entendre la suite des choix de Francine Forget. À vous, madame.
Je trouve que ça s'inscrit justement dans la suite de ce qu'on vient de lire, puisqu'on disait qu'il fallait faire le ménage sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des enfants qui doivent freiner l'ardeur de leurs parents et encadrer leur publication de photos sur les réseaux sociaux. Cet article est paru dans la Presse Plus du 28 janvier 2019 sous la plume de Philippe Jean Poirier. Plusieurs enfants et adolescents se soucient de leur image numérique et certains vont jusqu'à demander à leurs parents de retirer les photos d'eux de Facebook et d'Instagram.
Hello.
C'est par un membre de son entourage que Flavie, 10 ans, a appris que sa mère publiait des photos d'elle sur les médias sociaux. Je comprenais pas pourquoi la personne me disait que j'étais belle sur la photo. Quand je me suis rendu compte que ma mère publiait des photos de moi sur Instagram, je lui ai aussitôt demandé d'arrêter. Et quand je vois d'anciennes photos de moi sur son compte, je lui demande de les enlever. Pour Charlotte, qui a 18 ans, la bataille est continuelle. Je demande régulièrement à ma mère de retirer des photos de son compte. Elle s'obstine toujours un peu, même si au final, elle finit par le faire. Le contraste entre leur compte Facebook est frappant. Celui de Charlotte contient 4 photos, alors que celui de sa mère en contient des centaines. Toutes publiques, incluant les vacances familiales à la plage, une soirée d'Halloween et des sorties au resto. Le phénomène des parents qui partagent des photos de leurs enfants sur les médias sociaux a un nom, le « sharenting », un mot valise composé de « share » et de « parenting », pouvant se traduire par « surpartage parental ». Et il se retrouve au cœur du rapport « Who Knows What About Me » publié par Anne Longfield, commissaire à l'enfance en Angleterre, en novembre dernier. Alors, hein, c'est le monde à l'envers.
Mais fort intéressant, oui, par exemple. Oui, mais c'est très juste, c'est très juste.
Oui, c'est ça. C'est bon. Alors, Flavie est convaincue que c'est à elle et non à sa mère de décider quelles photos d'elle peuvent se retrouver sur l'Internet.
Elle a raison.
C'est mon visage?
Elle a raison.
S'exclame-t-elle spontanément. Frédéric Letendre, qui est associé chez Ulex et spécialiste en droit numérique, lui donne raison. Au Québec, toute personne majeure ou mineure a le droit au respect de sa vie privée. Exactement. Ça inclut le respect de son image, de sa voix et de toute représentation d'elle-même, incluant les photos. Est-ce à dire que les enfants exposés contre leur gré peuvent poursuivre leurs parents comme en Italie où un ado de 16 ans a fait condamner sa mère pour l'avoir exposée sur Facebook? En principe, oui. Par ailleurs, il existe plusieurs jugements, dont celui datant de 1998, Aubry contre les éditions Vice-Versa. Le dossier implique une femme qui a été photographiée à son insu et dont l'image a été utilisée sans son consentement. La femme a eu gain de cause et ça nous sert aujourd'hui de jurisprudence sur le droit de l'image. Pour obtenir un dédommagement, je m'excuse, on doit toutefois démontrer qu'une faute a été commise et qu'elle crée un préjudice, précise l'avocat. C'est pas évident a priori.
Non.
Les parents publient rarement des photos dans le but de faire mal paraître leur enfant. J'ajouterais, au contraire, souvent, c'est par fierté qu'on le fait.
Fierté.
Oui. Alors, Philippe Peugeant-Poirier, dans la Presse Plus, sur le Sharenting, 28 janvier 2019.
Intéressant. Je vais poursuivre avec savez-vous que les pertes de mémoire pourraient être causées par des problèmes d'audition? Ah! Ça, c'est intéressant, ça. C'est dans l'édition Ouest-France que j'ai trouvé cette petite merveille. C'est dans le volet santé. La perte de mémoire n'est pas forcément un signe avant-coureur de la maladie d'Alzheimer. Il faudrait arrêter de se faire des peurs. Il y a l'Institut de recherche Baycrest au Canada qui a fait des études là-dessus, puis elle a révélé qu'il y avait des problèmes auditifs qui étaient liés avec l'âge, qui pourraient être responsables des pertes de mémoire. La Revue canadienne du vieillissement, il y a une étude qui a été publiée dans cette revue, confirme que plus on avance en âge, plus on a de la difficulté à entendre. Regardez bien rapidement quelques chiffres. 40 % des gens de plus de 60 ans et 50 % des gens de plus de 80 ans ont des problèmes d'audition. Donc, il va sans dire que, quelquefois, ça peut causer des pertes de mémoire. Plusieurs études avaient déjà démontré que les personnes qui en souffrent sont plus susceptibles, notamment, de pertes de mémoire. C'est exactement ce que je viens de dire. Mon Dieu. J'aurais dû lire le texte. La perte d'audition entraîne un isolement social. Écoutez bien ceci. Quand on entend moins bien, on concentre ses capacités intellectuelles pour essayer d'entendre. Alors, on fait travailler une zone du cerveau au détriment des autres et, tout doucement, on y rend paresseuse. Et en plus, ce qui est malheureux, c'est que ça peut favoriser la dépression. Alors, est-ce qu'il faut s'appareiller 100 ans pour prévenir l'Alzheimer, c'est-à-dire s'appareiller, utiliser un appareil qui améliore l'audition? Le fait de mieux entendre en ayant des prothèses auditives, est-ce que ça réglerait le problème? Évidemment, les fabricants de ces prothèses l'affirment haut et fort comme argument de marketing. Mais, en attendant, et pour éviter les maladies de la mémoire, il est recommandé de privilégier les interactions sociales, les stimulations intellectuelles, avoir des activités physiques régulières, une alimentation équilibrée, traiter les risques de maladies cardiovasculaires et cela sans oublier de prévenir de traiter les pertes sensorielles si jamais il y en a. Alors, c'était un document fort intéressant et n'oubliez pas de fréquenter vos amis, c'est le meilleur moyen, je crois, de ne pas perdre la mémoire. Alors, c'était dans le volet santé de l'édition du soir Ouest France, paru le 22 janvier 2019.
Liberté, égalité, fraternité. La France est un pays riche en pauvres. C'est vrai qu'on viole la planète et qu'on vide les hommes. Alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il n'est pas trop tard les enfants, mais plus pour très longtemps. Quand on mange en direct une info qu'on déforme, alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Il n'est plus question de confort quand le goudron bouffe le sable et quand il pleut des oiseaux morts et l'homme qui devient jetable. C'est comme une évidence, on est tous concernés, mais c'est non-assistance à planète en danger. Quand c'est la terre qu'on enterre et la nature qu'on dénature, et quand l'air est foutu en l'air et qu'on va tout droit dans le mur, un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il n'est pas trop tard et pourtant, ça fait tellement longtemps qu'on nous vide la tête. Il faut que l'on consomme, alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme? Aujourd'hui sonne, sonne l'heure, on va faire sauter les œillères de tous les pantouflés du cœur qui ne voient même plus que la terre. La terre qu'on a connue ne vaut presque plus rien. Le pain ne coûte plus une bouchée de pain, car si l'on ne prête qu'aux riches, on fait crédit à la misère. À force d'être des caniches ou des moutons qui vont se taire, un jour on se réveille et de bouche à oreille. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins. Il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire. On sera 100, plus de 100 000 dans les campagnes et dans nos villes. Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses. Il faut agir et c'est maintenant, pour la planète et nos enfants.
De bouche à oreille, une chanson de d'Agnès Bill.
De bouche à oreille. Excusez-moi, c'était très bien après mon sujet sur l'audition.
Ça tombe pile, comme on dit.
Francine, je vous cède la parole.
Merci. Alors, je vous parle d'une application. Alors, le week-end, dans la presse plus, Karim Benassaï nous présente toujours des applications intéressantes. Celle-là, je trouve qu'elle nous rejoint tous. Tape médicale. C'est une application qui veut faciliter la prise de rendez-vous avec un médecin, mais sa spécificité, contrairement à d'autres, c'est qu'elle elle est créée par un médecin, Saphir Vanounou, et elle offre une plateforme qui s'occupe de l'utilisateur avant et après le rendez-vous. L'interface est simple et le service est plutôt efficace. Il ne s'agit pas seulement de trouver un médecin à un moment précis, mais de créer un réseau, de s'occuper par exemple des notifications aux patients, puis du suivi médical, explique le docteur Vanounou. TAP Médical, offerte depuis mai 2017, compte 20 cliniques médicales et une quarantaine d'autres offrant des services comme la physiothérapie, les soins dentaires, et ça, c'est dans la grande région de Montréal. Alors, on offre de 300 à 500 disponibilités par jour, selon son PDG, pour des urgences. Alors, retenons le nom TAP Médical.
Fort intéressant, effectivement. J'ai ici une très belle lettre à vous lire. Ça vient d'une madame qui est centenaire et qui dit « Les filles, ne baissez pas les bras. » C'est madame Annette Côté-Savoie, des Deux-Montagnes. Elle a 108 ans. Elle a une petite lettre à envoyer aux madames. Elle commence par parler d'elle. « C'est la dépression, chômage partout. Je me trouve chanceuse de travailler au gouvernement. J'ai la jeune vingtaine. Je suis sténodactylo au ministère de l'Agriculture du Québec. Mon salaire fait vivre 5 personnes. Ma mère qui est veuve, mon jeune frère et mes sœurs. Malgré les miracles d'économie qu'elle fait, ma mère me déclare un jour, elle n'est plus capable d'arriver. Je me rends donc chez mon ministre pour lui demander une augmentation de salaire. Il regarde son barème et me dit ceci. « Vous avez le plus haut salaire pour une femme au gouvernement. Je suis sous le choc. Je ne comprends pas que ma jupe m'empêche d'avoir un salaire décent. Le prix du beurre est pourtant le même pour les hommes comme pour les femmes. J'ai alors une idée. Si je démissionnais en faveur de mon frère, quel serait mon salaire? Son salaire, pardon. Le ministre regarde donc son barème à nouveau et me donne un chiffre. La différence entre mon salaire et celui que toucherait mon frère, pourtant moins qualifié que moi, paierait tout notre loyer. Je démissionne donc et mon frère est embauché. C'était il y a longtemps. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous gagné? Après de chaudes luttes, les femmes ont arraché des droits. Elles ont gagné la parité salariale dans des professions et des métiers. Pourtant, les inégalités salariales persistent et demeurent. La première femme à devenir ministre des Finances du Québec a tout tenté pour assurer la parité, mais elle a dû déclarer forfait dans certains domaines. Malgré toutes ces luttes, les femmes n'ont pas encore l'égalité salariale avec les hommes. D'après les plus récents chiffres de Statistique Canada, les femmes qui travaillent à temps plein gagnent 26 % de moins que les hommes. Alors les filles, ne baissez pas les bras. Nous n'avons pas tout gagné. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Si elle répète, c'était un texte de Annette Côté-Savoie, 108 ans, des Deux-Montagnes, et qui est paru en septembre dernier, et ça s'intitulait « Les filles, ne baissez pas les bras ». Nous vous invitons, évidemment, à ne pas nous quitter, s'il vous plaît. Restez bien avec nous, restez bien au chaud. Nous vous revenons après cette courte pause avec d'autres sujets tout aussi, soit émotifs, technologiques, mais tous intéressants. Alors, nous allons poursuivre avec un texte, évidemment, de Francine, mais là, elle me réserve une surprise parce que je ne sais pas.
Surprise pour tous. Je vous parle de formation.
Ah,
oui, okay. C'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire. En fait, on ouvre des nouveaux champs d'activité, mais est-ce qu'on est capable de former les gens compétents? Est-ce que l'école est prête à former la relève? Et on espère, quand ils arriveront sur le marché du travail, ces étudiants et étudiantes, qu'ils seront traités équitablement. Oui. Je vous parle de l'intelligence artificielle, le génie du futur déjà à l'université. C'est un texte qui est paru dans l'édition du 21 janvier 2019 de la Presse Plus, Martine Letarte, qui en est l'auteur. Objets connectés, réseaux 5G, robotique, ces éléments sont en grand développement, mais on les associe rarement au travail des ingénieurs électriques. Pourtant, ils permettent littéralement à ces technologies de prendre vie. La microprogrammation en génie électrique permet d'allumer une tablette, rend possible son volet tactile, sa communication Wi-Fi et Bluetooth. Aussi, si les étudiants pouvaient auparavant choisir des cours de programmation lors de leur baccalauréat en génie électrique à l'École de technologie supérieure, ceux admis depuis septembre devront en suivre au moins deux. Presque toutes les offres de stage maintenant en génie électrique demandent des compétences en programmation parce que tout devient connecté, que ce soit l'usine, le secteur de l'énergie, les télécommunications ou les objets du quotidien, explique Jean-François Bolland, qui est directeur du département de génie électrique à l'ETS. Pour mieux refléter les réalités du monde actuel, plusieurs grands axes thématiques ont été créés dans le programme, comme énergie et réseaux électriques intelligents, communication sans réseau, réseaux et objets connectés, commandes industrielles, automatisation et robotique, ou encore instrumentation biomédicale et imagerie médicale. Alors, est-ce qu'on peut supposer tout le travail que ça demande aux universités pour s'adapter à cette réalité? Allons voir maintenant du côté de Polytechnique à Montréal, où on vient de créer une concentration en intelligence artificielle et sciences des données pour les baccalauréats en génie logiciel et informatique. L'intelligence artificielle est transversale. Alors, elle change de façon dont on pense les systèmes informatiques et les logiciels, mais aussi dont on vérifie leur sécurité et la sécurité, enjeu majeur dans ce domaine, et détecte des failles, par exemple pour le domaine bancaire, oh là là, les transports, l'industrie de la fabrication, etc., explique Pierre Langlois, qui est directeur du département de génie informatique et logiciel de Polytechnique Montréal. D'ailleurs, avec l'importance que prend la cybersécurité, Polytechnique envisage aussi d'ajouter une concentration dans le domaine. L'ingénieur doit travailler en équipe multidisciplinaire pour relever ce défi qui a aussi une grande composante sociale, parce que les solutions doivent être adaptées et adoptées par les gens pour être efficaces, poursuit M. Langlois. Alors, c'est le génie du futur à l'université par Martine Letartre, dans la presse plus du 21 janvier 2019.
Intéressant comme appellation, le génie du futur. Effectivement, ça, je trouve ça très beau. Il y a génie électrique, génie électronique, génie de la voirie, génie...
Oui, c'est ça.
Il y en a toute une panoplie.
Mais le futur est assez présent, merci, hein, puisque l'intelligence artificielle, on ne cesse d'en parler, particulièrement à Montréal. C'est ce pourquoi je voulais partager avec vous ces nouveaux programmes universitaires, parce que c'est intéressant de voir que... Justement, l'école est très adaptée. Hein. Souvent, on critique tellement l'école que l'école est adaptée à ces nouvelles réalités.
Vous me faites plaisir. De mon côté, je vais vous jaser encore là. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que la crise de la quarantaine existe vraiment?
Comme celle de la cinquantaine, de la soixantaine, de la soixante-dizaine, etc.
C'est cela. Alors, c'est un texte fort agréable duquel j'ai ressorti quelques éléments. Alors, l'idée d'une crise qui survient vers la quarantaine, c'est solidement ancré dans les esprits. Je me suis amusé à poser la question maintenant, mais je sais qu'on entend souvent parler. C'est une période, soi-disant, de la vie qui serait plus morose, où on serait moins satisfait de notre existence. L'âge mûr, en fait, est souvent considéré comme le pivot de notre existence. Une fois la colline gravie, la vue de l'autre côté est souvent déconcertante. Et je vais vous citer Victor Hugo à cet effet. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse.
De la vieillesse, que c'est vrai.
Amusant. Mais on dit que près de la moitié des adultes de plus de 50 ans affirment en avoir vécu une crise, on s'entend. Les enquêtes révèlent que les hommes et les femmes d'âge moyen sont les moins satisfaits de leur vie. En fait, le 45 à 54 ans serait la période la plus morose. L'âge mûr, c'est vrai que ça peut être perturbant pour certains parce que à cette période de la vie, notre attention se déplace du temps écoulé à celui qui nous reste. Puis ça, c'est comme déstabilisant pour tout le monde. Les personnes d'âge mûr, comme les septuagénaires, ont tendance à se sentir une décennie plus jeune que l'âge que leur attribue le certificat de naissance. Dans une autre étude, les participants étant âgés, plus ils déclaraient que leur crise de la quarantaine s'était produite plus tard. C'est-à-dire, les personnes âgées de plus de 60 ans se rappelaient avoir vécu la leur à 53 ans. Alors voilà, ça se projette. On pourrait donc considérer qu'il n'existe pas vraiment de crise de quarantaine spécifique. Deux explications plus prosaïques, évidemment, sont avancées. Je vous les amène. C'est le moment où les enfants quittent la maison familiale. On est pris comme en génération sandwich. On doit s'occuper encore des enfants qui ne sont pas tout à fait partis, puis des parents qui, peut-être, ont besoin d'aide. Les maladies chroniques, des fois, font leur apparition aussi à ce moment-là. Les bobos commencent à sortir un petit peu. Les exigences professionnelles, c'est surtout ça, peuvent atteindre des sommets à ce moment-là. Le stress professionnel est très important dans la quarantaine, mi-quarantaine. Il y a une étude longitudinale qui a été faite aux États-Unis. Il y a des milliers d'Américains qui ont été suivis de 41 à 50 ans. Puis ça a révélé qu'à mesure qu'ils avançaient en âge, ils devenaient moins névrosés et moins complexés. Ben ça, c'est intéressant. La norme, évidemment, était la résilience que nous développons. Du côté des femmes qui ont été suivies, toujours dans le même groupe, elles avaient tendance, en vieillissant, à devenir moins dépendantes, moins critiques envers elles-mêmes et plus confiantes et encore plus déterminées. Ça, c'est le...
Oh, très intéressant. Que c'est intéressant. On va retenir juste ça de l'article.
Plus les gens rapportaient avoir vécu de crises dans leur vie, plus ils faisaient preuve d'empathie envers les autres. Ça, c'est pas rien. Le défi, en somme, c'est de quitter l'âge mûr en ayant retrouvé sa satisfaction à l'égard de la vie. À cet effet, je recite Victor Hugo, qui l'a très bien exprimé. « Quand la grâce se mêle aux rides, elle devient adorable. » Alors, c'était un très beau texte, je me suis amusé un peu, écrit par M. Nick Aslam, professeur de psychologie à l'Université de Melbourne. C'est paru très, très récemment, en janvier, le mois dernier. Et c'était, encore une fois, dans l'édition du soir, Ouest France.
Oh, c'est clair que c'est l'enfer. Essayer d'arranger le passé. D'après mon frère, il faudrait faire une grosse fusée, puis s'en aller, s'enfuir bout à bout de ce qui nous ressemble, pour finir la route ensemble. Me semble que l'ombre de notre enfance sombre en silence. Parce qu'il y a trop d'échos dans nos égos, pis c'est pas tout. Il y a trop d'autos sur nos autoroutes, pis faut survivre à nos cerveaux qui arrivent trop tôt au bureau. Il y a des soirs où l'espoir s'empare de mon corps, mais la mort roule. Pis ça, c'est pas de ma faute. Comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Oh, c'est sûr que c'est dur, essayer de se projeter dans le futur. Faut s'attendre à n'importe quoi. Me semble que ça va me prendre un emploi, moi. Mais tu veux dire, j'ai toujours eu peur à l'idée de devenir professeur. Puis qu'un jour, un élève se lève dans mon cours pour m'interroger sur mon passé. Monsieur Pilodo, j'ai une question. J'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube. Ouais, vous étiez pas mal cute, mais comment ça se fait qu'en vrai vous êtes pas mal plus laid. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me fais des crises existentielles. C'est évident, le présent se présente toujours trop rapidement, et tu seras toujours là, ma belle crise existentielle.
Émile Bilodeau et sa crise existentielle.
Et la crise existentielle, oui, c'est Dadon pour nous, oui, bien sûr. Francine, vous nous amenez où maintenant?
Alors, on se tourne vers Québec Science. Dans la section découverte de l'année, un article paru dans l'édition de janvier-février 2019, un capteur qui s'étend comme du dentifrice. Sportif, ouvrez bien les oreilles. Imprimé sur un chandail, ce capteur de mouvement ne requiert ni pile ni assemblage pour suivre le rythme de notre respiration. Par Étienne Plamondon et Mont. T-shirt, maillot et sous-vêtements qui enregistrent le rythme cardiaque, la respiration, la position de celui ou celle qui les porte. La tendance est aux vêtements intelligents. Hein? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais ils deviennent avec un accessoire, une encombrante pile qu'il faut recharger régulièrement. Il pourrait toutefois s'en départir bientôt grâce à un capteur de mouvement qui se passe de source d'énergie extérieure, mise au point dans les laboratoires de Polytechnique Montréal. Pour relever ce pari, l'équipe de recherche a eu recours à un matériau qui a la propriété de produire de l'énergie électrique lorsqu'il est déformé. Depuis plusieurs années, le laboratoire de Daniel Thériault au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal s'emploie à adapter ce genre de matériau au procédé d'impression 3D. Hein, il y a comme une boucle hein, entre les articles dont on parle d'une semaine à l'autre. C'est le cas du polymère constitué de nanoparticules de céramique qui a été utilisé dans cette percée. Mais pour capter et faire passer le courant électrique, des électrodes devaient être assemblées de part et d'autre. Afin de réduire le nombre d'étapes de fabrication, les chercheurs se sont tournés vers une pâte composée de nanoparticules d'argent qui présentait les propriétés conductrices voulues pour jouer le rôle d'électrode. Il restait à faire sortir les deux composantes de l'imprimante 3D en un seul morceau sans les mélanger. On s'est inspiré des tubes de dentifrice, explique Daniel Thériault. Plus précisément de ces tubes qui expulsent une pâte dont les rayures de couleur ne s'entrecroisent pas. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi, je suis toujours fascinée. C'est ça pourquoi, d'ailleurs, je lis cet article. C'est un rapport à moi-même, mais de voir ces pâtes dentifrice où on sort ça, puis les filets de couleur restent intacts.
Intacts sur la place. Magnifique. Les enfants adorent ça.
Ben alors, c'est mon cœur d'enfant. Le grand défi était de trouver la bonne viscosité pour qu'ils sortent ensemble au même moment, souligne la jeune chercheuse Sampada Bogdel, dont le capteur constitue l'aboutissement de travaux de doctorat. Après de multiples essais et erreurs, elle a obtenu le résultat espéré, un mince filament imprimé avec deux couleurs bien distinctes, capable d'envoyer par lui-même un signal électrique à la moindre inflexion. Cette avancée a fait l'objet d'une demande de brevet et d'un article dans la revue Advanced Engineering Materials. L'équipe de Daniel Thériault travaille actuellement à insérer le capteur dans le caoutchouc d'une semelle de chaussure afin de dénombrer les pas de son utilisateur. Et au-delà des vêtements, le milieu de l'aérospatiale pourrait à long terme bénéficier de la trouvaille. Un drone, voire un avion, serait à même de détecter à l'aide de capteurs légers intégrés à sa structure des perturbations dans les conditions de vol ou des dommages sur la structure pour prévenir des accidents. Voilà un dentifrice qu'on ne voudra certainement pas remettre dans son tube. Un article d'Étienne Plamondon et Mont, Québec Science, janvier-février 2019, sur un capteur de mouvement, de pas, etc., qui est vraiment révolutionnaire.
J'apprécie beaucoup la façon que vous avez de vulgariser quelque chose d'aussi technologique. Merci beaucoup, Francienne.
J'espère que je le fais bien parce que...
Oui. Voilà, j'ai trouvé un autre texte fort intéressant dans le programme d'aide aux employés. Ça s'appelle « Le travail santé-vie ». Il parle de comment aider vos parents âgés. Je sais que j'ai déjà parlé de ces choses-là précédemment. Par contre, il y a toujours un nouveau volet qui s'y ajoute. Il y a tout à coup, on prend conscience que les changements s'opèrent chez nos parents âgés. Tout à coup, comme ça. Il y a une prise de conscience qui se fait que, ben, on se rend compte que la maison n'est peut-être pas aussi propre qu'avant, que le gazon n'a pas été tondu, que le réfrigérateur, ben, est plus vide qu'avant. On s'inquiète. On s'inquiète de leur santé, on s'inquiète aussi de leur aptitude à penser clairement. Enfin, on commence à semer le doute dans notre tête. On constate aussi que notre rôle de parent-enfant est en train de s'inverser, là. On doit tout à coup et subitement les aider et peut-être prendre soin d'eux tous les jours. Quelques stratégies, par exemple, pour éviter que les choses aillent mal puis que ça se passe bien. Assurez-vous de ne pas menacer ou de détruire leur sentiment d'indépendance, OK? Il leur revient toujours d'accepter ou de refuser votre aide. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Fondez pas vos présomptions sur vos observations. Parlez-leur simplement de ce qui vous inquiète, par exemple, au sujet de leur aptitude à prendre soin d'eux ou à s'occuper du domicile. Demandez-leur s'ils ont du mal à effectuer certaines tâches comme le ménage, déneiger, frotter le plancher, des choses simples. Si vos parents vous assurent que vous vous en faites pour rien, restez quand même vigilant, mais ne vous imposez pas. Entretenez une belle communication franche avec eux. Parlez avec vos parents, par exemple, à chaque changement de saison. Dès la première neige, vous allez pouvoir vérifier leur capacité à déneiger, faire les entrées sécuritaires. Ou l'autre moment, c'est au moment de l'été. Vérifier comment ils peuvent entretenir leur terrain. Et si jamais ils ont besoin d'aide, offrez-leur des idées positives dans ce sens-là. Il y a des organismes qui apportent du soutien aux aînés, aux tâches ménagères ou aux travaux d'entretien à peu de coûts. C'est des services qui, quand on recherche un peu, il y a peu de frais. Ou, pour leur venir en l'air, parler avec eux et trouver des solutions ensemble. Pas leur imposer pas des solutions. Leur dignité va être ainsi préservée. Puis ça, c'est peut-être l'affaire la plus importante. N'oubliez pas de leur demander si dans le voisinage, il n'y a pas des étudiants qui peuvent faire le fameux déneigement puis le fameux gazon. Ça aussi, c'est faisable. Prenez exemple de vos parents. Essayez de les laisser exercer un contrôle sur leur vie, comme ils l'ont fait pour vous, quand vous étiez plus jeune, pourvu évidemment que leur sécurité et leur santé ne soient pas menacées. Attendez-vous cependant à vous heurter à une certaine résistance de leur part. Essayez de comprendre. Toute perte d'indépendance est difficile à accepter. On va arriver là un jour aussi. Reconnaissez vos parents qui sont libres d'accepter ou de refuser de l'aide. Si vous avez l'impression d'être écrasé par vos nouvelles responsabilités, gênez-vous pas, consultez un professionnel. Vous allez avoir des conseils, un encadrement, du soutien. Et tout ça, en plus d'assurer que vos parents obtiennent l'aide dont ils ont besoin, il vous aidera à maintenir une relation saine et affectueuse avec eux. Ça, c'est peut-être le bout le plus important. Alors voilà, c'était un texte qui est paru dans Travail Santé Vie d'un programme d'aide aux employés pour savoir aider nos parents âgés qui est paru en janvier 2019.
Mon oncle Albert, c'est un millionnaire. Il a fait son argent avec la guerre. Il y a eu un contrat du gouvernement pour payer je ne sais quoi en ciment. Alors comme il était payé autant, comme bien entendu il a pris son temps. Et même ça lui a pris tellement de temps qu'il vit de ses rentes depuis ce temps. Comme de raison, c'est le dieu de la famille. Quand il vient pour faire des déclamations, il faut parler comme des petites filles afin de lui faire une bonne impression. Dans nos petites têtes d'enfants, on se dit en tout cas si l'argent fait pas le bonheur tout comme les galons, au moins on est perçu dans les salons. Ma tante Ida, la sœur de mon père, est reconnue pour être une vraie commère. Et un jour, maman l'a dit à papa, papa lui n'a pas du tout aimé ça. C'est pas que sa sœur, il l'aimait tellement, mais entre frères et sœurs, on se défend. Ce n'est pas toujours comme ça au foyer, mais tout change lorsque l'on est marié. En tous les cas, de mon père en colère, et après gueuler sur ma tante Claire du côté de maman, qui d'après lui avait des dans nos petits cœurs de 10 ans, on savait pas ce que c'était des amants. Mais quand même, quand elle vient nous visiter, pour l'embrasser, on s'est bouché le nez. Mon oncle Arthur, c'est un gros taureau. Tous les hivers, il part pour l'Ontario. Il s'en va travailler dans les chantiers, faire la cuisine car il est cuisinier. Quand il revient avec le printemps, il a les poches bien bourrées d'argent. Il prend un coup et avec une bidoune, il vient chercher mon père pour une balloune. Ma mère dit qu'on reste à la maison, Mais il s'en va quand même comme de raison. Quand il revient avec un coup dans le corps, nous autres les jeunes, il faut rester dehors. Les voisins appellent Radio Police avant qu'ils finissent par s'assommer. Le lendemain matin, l'institutrice nous parle de la douceur du foyer. Pas parler katinkatikitang, 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 pas parler katinkatikitang.
Yves Lambert, la famille.
Yves Lambert, depuis que la pièce est commencée, qu'on s'interrogeait à savoir qui était le chanteur. Merci, Mathieu. Francine, voilà, c'était Yves Lambert.
Avant de vous laisser la parole pour terminer l'émission, je voudrais vous rapporter le chiffre de la semaine du fil techno de la semaine, justement, de Karim Benessaï dans la Presse Plus. 1200. C'est le nombre de tonnes de piles et batteries usagées, essentiellement utilisées pour des appareils électroniques, que les Québécois ont envoyées au recyclage en 2018. Ouf. 1200 tonnes pour une seule année. Bonne nouvelle, selon les statistiques de l'organisme Appel à recycler Canada, le Québec est le champion en la matière au pays, avec 44 % du total des piles et batteries recyclées. Alors, comme 2019 commence, je me suis dit que 44%, on était capable d'améliorer ça. Alors, je fais un appel à tous et j'espère que l'an prochain, je pourrai vous dire qu'on a augmenté d'au moins 20%.
Et je permettrais d'ajouter une question, s'il vous plaît, à vous.
Peut-être aurais-je une réponse qui n'est pas garantie.
À venir, peut-être.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font avec le recyclage des piles? Ça m'interpelle beaucoup. Je participe de façon volontaire, mais des fois, je traîne des piles dans un sac. Un bon moment avant de trouver l'endroit où il faut vraiment que je les remette, là. Si jamais vous avez la chance de savoir un peu plus sur le sujet, j'aimerais tellement ça. Je vous remercie à l'avance.
Vous lancez tout un défi.
Est-ce que vous savez que le mari de la reine Élisabeth a eu un accident de voiture? Bon, oui, je pense que ça a apparu sur les médias sociaux, mais ce que je vais vous apporter, je ne suis pas sûr que ça a apparu. Ça n'a pas paru longtemps. Les débris de son accident de voiture, ben, imaginez donc qu'ils ont été mis en vente sur eBay. Je sais, tout le monde rit ici, mais je vais vous en parler. Alors, comme vous savez, il y a eu un accident le 17 janvier dernier. Ben, il y a un internaute qui a mis en vente les débris qui seraient issus de cet accident sur eBay, comme je vous l'ai dit. Ben, écoutez, c'est pas rien. Les offres ont monté jusqu'à 66 000 livres sterling. C'est l'équivalent de 116 000 $. C'est une drôle de vente, évidemment, qui a été présentée sur eBay puis a été relayée par de nombreux médias britanniques. Juste pour vous rapporter, ce monsieur, donc, s'appelle le prince Philippe. Il est âgé de 97 ans, donc... Je voulais juste le préciser. Et monsieur, la personne qui a pris les débris n'est pas identifiée, sauf sous un pseudo. Mais il est allé sur place et a récupéré les morceaux de plastique de la Land Rover en mentionnant sur son site, il pourrait même contenir de l'ADN de Phil si vous vouliez le cloner ou quoi que ce soit. Les objets n'ont pas été volés, ils avaient été laissés au bord de la route pendant trop longtemps. Le pseudo s'appelle Morbius777. Bon. Lui dit, ça m'étonne qu'ils n'aient pas été nettoyés le jour même. Il n'y a pas de gain financier pour moi. Je vous assure que tous les profits iront à des œuvres de charité comme le Cancer Research de la Grande-Bretagne. Bon, l'annonce a eu beaucoup de succès. Les enchères sont parties je vais vous dire en canadien, ont commencé à 2 $ et se sont terminées à 116 000 $. Faut le faire quand même. Tout ceci devait rester aux enchères pendant une grande semaine, mais tout à coup, 3 jours plus tard, cette annonce a demeuré introuvable. Nous sommes à penser que eBay l'a retiré. Alors voilà, c'est un texte que j'ai trouvé dans l'édition du soir Ouest-France, encore une fois, et c'est paru au moment le 21 janvier, le moment où finalement l'annonce a disparu. c'est beau. Un autre trouvaille. Le plus vieux barbier du monde. Ben, il jette pas encore la serviette, imaginez donc. Il y a 107 ans, il a commencé à faire ses armes au niveau du barbier à l'âge de 11 ans, parce qu'il voulait aider sa famille. 95 ans plus tard, son nom se retrouve dans le livre de Guinness. Il dit « Je suis tellement heureux de toujours être un barbier. » Et il fait des semaines de 40 heures, malgré ses vénérables 107 ans de vie. Son conseil pour avoir cette énergie, restez donc occupé. Ça, c'est la plus belle chose. Monsieur Mancinelli, parce que c'est son nom, continue même de travailler pendant que son fils de 85 ans, lui, a pris sa retraite. Et il continue de travailler 5 jours semaine, 40 heures par semaine. Et tout ça, c'est un texte qui vient de l'agence QMI, qui est paru très récemment. Ben, je salue ce monsieur, c'est magnifique. Voilà, alors je vous laisse. Mon Dieu, je suis sur les derniers milles. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, vendredi prochain. Bonne semaine, bonne santé tout le monde.